Donc, je vais lire dans Romains, chapitre 15, c'est les versets 1 à 12. C'est le message numéro 33 dans la série. On a encore 3 ou 4 messages pour terminer le livre. Je vais lire le texte que nous allons voir aujourd'hui. Romains, chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Et Isaïe dit aussi, verset 12, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Donc ce message sur Romains chapitre 15, versets 1 à 12, va terminer l'enseignement sur l'amour du prochain dans le contexte des divergences qui existent parmi les chrétiens. Par exemple, la culture, le langage, les personnalités et même les divergences des pratiques. C'est en poursuivant ces principes sur la pratique de l'amour. Donc, on a commencé dans Romains chapitre 12, verset 1. Et ça continue jusqu'à Romains chapitre 15, verset 12. Okay? Mais c'est en poursuivant ces pratiques sur ces principes, sur la pratique de l'amour, qu'une Église peut prospérer à la gloire de Dieu, tout en gardant l'individualité de chacun. Chacun de nous, on a besoin de prendre le temps nécessaire pour réfléchir sur ce thème. Paul insiste que chacun de nous doit agir de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est notre modèle. Il aurait pu chercher à satisfaire ses propres désirs. D'ailleurs, le diable le tentait de le faire. Mais non, Jésus a mis ses intérêts personnels en arrière-plan et il a cherché volontairement à plaire à son Père, puis à satisfaire les besoins de l'humanité. Voulez-vous savoir comment vous pouvez plus comme Jésus? Comment être plus comme Jésus? Prenez le temps de revoir Romains chapitre 14, verset 1 à chapitre 15, verset 12. C'est dans ce passage-là que vous allez comprendre comment nous devons nous aimer réciproquement. Donc, on va regarder ce texte aujourd'hui. Romains chapitre 15, versets 1 à 12. Ça ne termine pas le livre. Il y a encore un chapitre et demi qui reste. Mais ce passage aujourd'hui termine le sujet de la pratique de l'amour dans le contexte de nos différences. Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes fortes, donc nous qui avons la puissance, nous devons soutenir les faiblesses, et quand on a le mot faiblesse, c'est les sans force. Donc, vous qui ont la force, vous devez soutenir ou supporter ceux qui n'ont pas la force. Ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire, c'est-à-dire ne pas plaire à nous-mêmes, en nous-mêmes dit. Donc, vous savez bien, de nature, nous avons tous tendance à être égoïstes, à se plaire à soi-même. Mais l'idée que Paul enseigne, c'est que par l'amour, nous ne devons pas agir selon nos propres intérêts. Nous ne devons pas rejeter le chrétien qui est faible ou le nouveau converti parce qu'il n'arrive pas à vivre la vie chrétienne comme nous pensons qu'il devrait faire. Au contraire, dans Romains chapitre 14, verset 1, nous lisons que nous devons faire accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discuter pas sur les opinions. Maintenant, Paul dit que nous devons non seulement les accueillir, mais aussi nous devons supporter leur faiblesse. C'est dans ce sens de supporter leur faiblesse que la prophétie dit du Seigneur Jésus, il ne brisera point le roseau cassé. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 12, versets 20 et 21. Nous sommes tous les roseaux cassés. Jésus ne nous a pas écrasés. On est cassés, mais il ne l'a pas écrasé. Il n'a pas fini avec nous. Non, Jésus nous supporte dans nos faiblesses. Et maintenant, la parole de Dieu dit que c'est à nous, à notre tour, de nous supporter mutuellement. Dans sa description de ce qui est l'amour, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 7 que l'amour supporte tout. Mais il n'utilise pas le même mot pour supporter dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 7. Il utilise un autre mot qui signifie que l'amour fait preuve d'endurance, que l'amour persévère à travers le temps. Ceci nous rappelle que Jésus a répondu que nous devons nous pardonner mutuellement 70 fois, 7 fois. Endurance à travers le temps. Donc ne pensez pas que vous allez satisfaire le Seigneur après un premier ou un second effort à supporter une autre personne. Ce n'est pas fini. Paul aborde ce sujet dans Galates chapitre 6 et versets 1 à 3 en parlant d'un frère qui a été surpris dans une faute ou un péché. Il dit, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, ou au moins qui se considère spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. » Et ce mot « porter », c'est le même mot que nous avons ici dans chapitre 15, verset 1. C'est ce mot « supporter ». Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, quelle loi? Quelle loi de Christ? Aimez-vous les uns les autres. Verset 2. Que chacun de nous complaise, donc complaise, c'est avoir le plaisir de rendre service volontaire. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Alors, ce mot édification signifie normalement l'acte de construire un bâtiment. Mais dans ce contexte, il signifie de progresser ou de construire sur le niveau spirituel. Verset 3. Car Christ ne s'est point complu, donc on a encore ce mot, rendre service volontaire. Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Donc le mot insulte, c'est faire des reproches, des insultes, des railleries, des choses comme ça. Donc quand Jésus, il a pris notre humanité, pendant ce temps-là, il a pleinement connu l'être humain, notre humanité. Il nous connaît entièrement. Ce ne sont pas uniquement les insultes que Jésus a supportées pendant son temps sur la croix, mais encore ce que l'humanité a fait contre Dieu à travers les siècles. Et je vais lire dans Jude, chapitre, pas le chapitre, Jude, verset 15 à 18. Jude 15 à 18. Donc voici, le Seigneur est venu avec ses myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, donc ce sont tous les paroles et les choses, comme il dit là, les railleries, les insultes, les reproches, qui plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnalités par motif d'intérêt. Puis il dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc, toutes ces choses-là, Jésus a supporté, a porté, quand il est sur la croix. Puis je voulais aussi aller dans Philippiens chapitre 2, ça parle de l'humilité de Jésus quand il est devenu un être humain. Dans Philippiens chapitre 2, et je vais commencer avec les deux derniers mots du verset 5, Jésus-Christ, verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, verset 7, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Christ a supporté les outrages et les insultes. Il a supporté notre incrédulité, nos péchés, nos insultes. Il a pris tous nos péchés sur lui-même à la croix. Et ce verset qu'on vient de lire dit que nous aussi, nous devons supporter les faiblesses et les fautes des autres chrétiens. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Donc, je voudrais dire aussi, et c'est important, c'est une petite note à côté, mais quand Christ, il a supporté nos fautes, c'était dans l'objectif de nous purifier. Ce n'était pas dans le sens de nous rendre plus sales qu'auparavant. Okay? Et nous aussi, nous devons édifier, nous devons encourager, nous devons construire les uns les autres et non pas les détruire. On va rappeler ce que Paul a dit dans chapitre 14, verset 13. Il a dit, ne nous jugeons plus les uns les autres. Donc, au verset 4, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédions l'espérance. Donc, on va regarder quelques-uns de ces mots-là. Écrit d'avance fait référence à l'Ancien Testament. Tout ce qui est là nous apprend comment Dieu agit. Si on veut savoir comment Dieu peut agir dans nos vies, il faut voir comment Dieu a agi dans l'Ancien Testament. Instruction, c'est la doctrine, c'est l'apprentissage, c'est l'enseignement. Donc ce mot vient de la même racine que le mot dans Matthieu 28, verset 20, qui nous dit « enseignez-leur ». Okay? L'enseignement biblique est fondamental au christianisme. Ce n'est pas l'enseignement tout seul, c'est l'enseignement biblique. C'est ça qui nous rend chrétiens. On enseigne, puis on met en pratique. Si on ne met pas en pratique, ça ne vaut rien. Il dit « par la patience ». Donc, patience, c'est encore ce même mot qu'on a vu plusieurs fois à travers l'Épître. C'est un mot qui implique le fait de rester en arrière, de persister, d'avoir la patience, l'endurance, la fermeté à travers le temps. Okay? On a parlé de ça tout à l'heure. Ceci est le mot dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'amour supporte tout à travers le temps. Puis, il y a aussi un autre mot pour patience dans 1 Corinthiens chapitre 13, le même verset 4, l'amour est patient. Et ce mot différent qui relève plutôt l'idée de souffrance. Donc on a une patience à travers le temps et une autre patience à travers la souffrance. Okay? Deux genres de patience, mais ils sont différents. Et par la consolation. Donc, ce mot invoque l'idée de l'aide, de l'encouragement, le réconfort. C'est le mot que Jésus a utilisé pour décrire le Saint-Esprit, Paraclète. Ce mot consolation signifie donc une exhortation, une supplication, un encouragement, ça peut être une joie, une consolation bien sûr, ou un réconfort. Que dans les Écritures. Donc, les Écritures donnent la patience et donnent la consolation. Donc, les Écritures sont la source de la foi véritable. Il y a plein de monde avec plein de fois différentes. Mais la foi chrétienne est dans ce livre, le Nouveau Testament. Les Écritures sont la source de la foi véritable, donc la nourriture nécessaire pour la foi. Le consolateur, donc le Saint-Esprit, il console, mais à travers les Écritures qu'il a inspirées. Le chrétien qui ne se nourrit pas des Écritures se prive, malheureusement et volontairement, de la véritable nourriture spirituelle. Il ne peut qu'être faible dans la foi par manque de nourriture. Aussi, ils se privent de la consolation du consolateur. C'est grave. La vraie foi se bâtit et se maintient sur la base des Écritures. Dieu veut que les chrétiens aient de l'espérance en lui. Donc, le prochain mot, c'est possédion, tout ça, pour avoir l'espérance. L'espérance dont il parle concerne premièrement le pouvoir de Dieu d'intervenir dans nos vies, mais en particulier l'espérance dans le sens éternel, ce que Dieu a promis éternellement. Au verset 5, que le Dieu de la persévérance, donc il répète les deux mots d'avant, que le Dieu de la persévérance, c'est le mot patience, et de la consolation, paraclète, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Donc ce mot sentiment, c'est le mot avoir une même compréhension ou une même pensée, et donc être disposé mentalement dans une direction spécifique. Et cette direction spécifique, c'est selon Jésus-Christ. Donc c'est la direction de nos pensées devrait être Jésus-Christ. Pour le connaître et pour connaître son enseignement. Et donc ça revient encore à Matthieu 28, verset 20, où les disciples doivent apprendre à observer tout ce que Jésus, donc je vous ai prescrit. Okay? Afin que quoi? Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui a un rapport avec le salut commence avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, donc c'est tout le paragraphe avant, le salut, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ici, dans Romains chapitre 15, verset 5, nous lisons que le Créateur est le Dieu de la persévérance et de la consolation. C'est-à-dire, il est la source de la consolation. Il est la source de la patience. Au verset 4, il dit que Dieu utilise les Écritures pour donner la consolation. Et maintenant, au verset 5, nous voyons que par moyen des Écritures, Dieu donne aux chrétiens la capacité de partager les mêmes pensées. Parce que quand on lit le même livre, et on comprend ensemble le même livre, on partage les mêmes pensées. Mais il faut qu'on adopte ces pensées. Les Écritures nous donnent le renouvellement de l'intelligence dont on a parlé dans chapitre 12 et verset 2. Et comme ça, on va tous partager les mêmes pensées. Je veux noter en passant que la patience de Dieu a des limites, même si ces limites sont très grandes. Pierre dit que les non-croyants abusent de la patience de Dieu pour augmenter leurs insultes et que cette même patience permettra à d'autres personnes, donc pas ces gens qui s'enfoncent dans l'incrédulité, mais d'autres personnes, ça les permet de trouver le salut. C'est la même patience, Dieu patient envers tout le monde, mais c'est la réaction qui est différente selon la personne. En tout cas, Dieu dit qu'à la fin, les cieux d'à présent sont réservés pour la destruction. Et donne comme preuve le déluge de Noé. Une fois que Dieu a annoncé l'arrivée du déluge, Dieu a fixé 120 ans pour que les méchants se repentent. Puis, le jour même de l'anniversaire des 600 ans de Noé, les eaux arrivèrent. Et la parole de Dieu dit que la première fois, Dieu s'est servi d'eau pour son jugement et qu'il servira du feu la seconde fois. Donc, la patience de Dieu n'est pas illimitée. Il y a une limite. Verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc ce mot encore, le mot accueillez-vous, c'est recevoir en hospitalité ou en amitié. Le mot donc fait référence en particulier au verset 5 et 6. Donc pour arriver à être tous ensemble d'une même bouche pour glorifier Dieu, il faut obligatoirement s'accueillir les uns les autres. Cela oblige que les chrétiens passent du temps ensemble. Par exemple, là, on est ensemble. Comment Christ vous a-t-il accueilli? Il vous a accueilli en tant que pécheur. Maintenant, pour la gloire de Dieu, nous devons nous recevoir, nous accueillir mutuellement. Au nom de Jésus et malgré nos différences, nous devons soutenir les frères et sœurs et nous devons les recevoir aimablement. Ceci rend évident notre amour pour Jésus et notre amour les uns pour les autres en Christ. En Christ, Paul dit en particulier, il n'y a plus de barrière entre juifs et païens. Il n'y a plus d'animosité. Les juifs convertis aiment Jésus et les païens convertis aiment Jésus. Nous aimons tous celui qui nous a aimés et nous devons aimer les bien-aimés de Dieu. Verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc, la véracité ou la réalité ou la sincérité de ce que Dieu avait révélé quand il a écrit ça comme un engagement au Père dans les Écritures. Donc ce verset explique encore pourquoi Jésus n'est pas allé chez les païens, il est allé chez les juifs. C'était une obligation que Dieu s'est faite dans les Écritures. Il a fait des promesses aux juifs. Dieu tient toujours sa parole. Il s'est obligé, il s'est engagé. Et donc, il est venu chez les juifs, les siens, au temps marqué. Ce peuple auquel Dieu avait donné les Écritures. Et même si les multitudes n'ont pas accepté Jésus comme le Christ, son arrivée a quand même manifesté la véracité de Dieu. Le Seigneur Jésus était exactement ce qu'avait promis Dieu dans les Écritures. Jésus a accompli tout ce qui était promis, en particulier au peuple juif, à l'exception du millénaire futur. Et puis, il a aussi accompli ce qui avait été promis à l'humanité depuis Adam. Donc, on parle au verset 8 des juifs, et au verset 9, on parle des païens. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Donc, il honore ou il magnifie Dieu à cause de sa miséricorde. C'est là qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple et encore louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Isaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Dieu sauve les Juifs et les païens qui croient en son Fils, Jésus-Christ. Mais Dieu n'a pas confié les Écritures aux païens. Nous, les païens, hein, nous bénéficions des promesses du salut qui sont dans les Écritures que Dieu a données aux Juifs, bien sûr, grâce à la miséricorde de Dieu. Il nous sauve parce qu'il nous aime et nous glorifions, nous honorons, nous magnifions Dieu du fait que son amour s'étend juste à nous. Donc, on est presque à la fin, mais avant de terminer le message, je voudrais revenir sur cette question de louange et la musique. Dans les versets 9 et 10, on va garder quelques mots. Donc, dans le verset 9, il y a le mot « louer ». Donc, « louer », ce mot-là, c'est à la base, ça signifie « accepter » ou « avouer ». Ça veut dire qu'il y a un rapport avec le mot « louer ». Donc, c'est un mot « louer », mais à la base, ça veut dire « accepter » ou « avouer ». Et ça vient à vouloir dire donner son plein consentement. Et par la suite, être d'accord ou reconnaître. Et par reconnaissance, ça devient remercier ou louer. Voilà, tout le cheminement. C'est un peu comme, on va dire, si vous achetez une voiture qui est homologuée, qui est conforme, vous êtes en sécurité, ok? Ou vous achetez un produit qui est agréé ou homologué, ok? C'est un peu ce mot-là, ok? C'est un produit qui est accepté, c'est un produit à qui le gouvernement ou la société donne son plein consentement, et donc nous, on remercie le fabricant parce qu'il nous met en pleine sécurité. C'est ça, ce mot « louer », ok? Le second mot, c'est chanter. qui veut dire chanter. Et ça peut aussi vouloir dire chanter des psaumes. Ou ça peut aussi dire jouer sur un instrument à cordes. Dans le verset 10, il y a le mot « se réjouir » qui veut dire, globalement, « être heureux ». Et puis encore un autre mot pour louer. Louer, donc ce second mot pour louer, signifie « prier » ou « raconter son histoire ». Et donc, je vais suggérer même « témoignage » parce que c'est par la voix que nous allons louer. Donc, un louer, c'est le sentiment de sécurité, de reconnaissance, de remerciement, parce que Dieu, il nous assure, comme on a chanté tout à l'heure. Et le second louer, c'est de donner un témoignage, c'est de parler de ce que Dieu a fait, un peu comme le dernier mot, célébrer, qui veut dire aussi prier, ou louer. Donc, ces deux mots sont presque synonymes, mais l'autre partie de ce mot, c'est féliciter ou même applaudir. OK? Donc, ce sont tous les mots pour, quelque part, louange. L'idée, ce que je veux dire, c'est que l'idée d'une production de louange, que l'on voit dans plein d'églises de nos jours, n'est pas du tout dans ces versets. Okay? Il y a, bien sûr, la musique, c'est présent. Okay? Pourtant, dans ces versets, ce que Dieu attend de nous tous, hein? Ce que Dieu attend de nous, c'est nos paroles. Ce que Dieu veut entendre, c'est nos paroles. Il veut entendre nos voix. Il veut que nous rendions témoignage, que nous racontions son histoire ou son histoire avec nous, que nous avons vécu avec lui. Il veut que nous applaudissions ses œuvres, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans la nature, ou que ce soit dans sa parole. Tout cela peut se faire chez vous, ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire au travail, etc. Quant aux réunions de dimanche, nous devons focaliser sur les cantiques, la prière, les témoignages et l'exhortation à partir de la parole de Dieu, comme nous faisons. C'est ainsi que les chrétiens ont toujours fait, à part quelques-uns dans le temps qui n'ont pas aimé la musique. Mais toujours quelques-uns comme ça. Et donc, juste un petit mot concernant la musique. Premièrement, nous aimons la musique. N'est-ce pas? Hein? On aime bien la musique. Mais toute musique ne convient pas aux rencontres le dimanche. Je veux dire le dimanche matin. Dans le monde, les styles de musique se multiplient. Ce n'est pas fini. Il y aura des styles dans 10 ans qui n'existent même pas aujourd'hui. Mais voilà, il y a le jazz, il y a le rock, il y a le metal, il y a le rap, etc. Il y a une grande liste de styles de musique. Parfois, un style de musique s'est développé carrément comme une expression de rébellion contre Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que la musique du monde, même avec les paroles chrétiennes, ne correspondent pas à l'idéologie de cantique congrégationaliste, quand les chrétiens viennent ensemble pour chanter. La musique à l'église, donc je veux dire dimanche matin, doit être à la portée de tous. Histoire racontée, histoire. J'étais dans une certaine église, je ne dis pas où, aux États-Unis. Et devant moi, il y avait un monsieur qui avait été dans une étude biblique avec moi quelques ans auparavant. Et on venait de finir la musique, donc la partie louange, comme on dit. Et je voulais, donc ils ont dit, saluez-vous les uns les autres. Bon, hein? Donc je veux dire bonjour à ce monsieur. Mais la musique est tellement forte dans cette église-là, quand il retourne, il enlève les choses dans ses oreilles, il les met dans la poche avant de me serrer la main. C'est pas normal. Okay? C'est pas comme ça que nous pouvons louer Dieu. Okay? Ça, c'est une histoire que j'ai vécue, mais mon point, c'est que quand on est là le dimanche matin, on veut chanter ensemble. On veut avoir la musique que tout le monde est capable de chanter. Ça se peut qu'on aura, comme dans beaucoup d'églises dans mon pays, au moment de l'offrande, on n'a pas d'offrande, on ne peut pas la faire. On a une petite boîte. Mais au moment de l'offrande, il y a toujours quelqu'un qui chante quelque chose de plus joli, plus professionnel, un instrumental, quelque chose de spécial. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais quand les congrégations chantent, il faut que ça soit quelque chose qu'on peut tous chanter. Ça va, tout le monde, vous comprenez? OK. Donc, en conclusion, je commence avec Jésus. Jésus a guéri le jour du sabbat.
Il a guéri le jour du sabbat.
Il s'est défendu en disant que l'on a le droit de faire le bien en tout temps, mais jamais le droit de faire le mal. Jésus a placé ces questions-là sur le niveau moral. Respecter un jour ou non, ce n'est pas vraiment important en soi. Manger de la viande ou manger des légumes n'est pas important en soi. En revanche, faire du mal ou négliger de faire le bien, c'est grave. Aimer, c'est ne pas faire le mal. Aimer, c'est faire le bien à celui qui en a besoin. Nous devons être alertes pour déceler là où nous pouvons rendre service volontairement. Nous ne devons pas nous critiquer et nous condamner. Jésus savait que la Samaritaine au puits était coupable. Il savait que la dame prise en adultère était coupable. Mais il ne les a pas condamnés, mais leur a fait comprendre par elles-mêmes leur faute. Et nous savons que nous sommes tous coupables. Jésus nous a enseigné de bâtir nos vies sur lui-même, qui est le roc. Soyons donc un encouragement pour un frère ou pour une sœur qui a besoin d'aide par une parole gentille ou peut-être par une réprimande avec douceur. Faites bon accueil les uns aux autres. Oui, c'est certain que les autres ne sont pas comme vous pensez qu'ils doivent être. C'est pour ça qu'on est tous différents et des individus. Si l'autre est sensible sur un sujet, ne le soulevez pas. Supportez sa faiblesse, son point sensible. Ne mettez pas le sel dans la plaie. Plutôt, au nom du Seigneur Jésus, embrassez-le comme l'enfant de Dieu qu'il est. Bon accueil, c'est à la fois l'amitié et l'hospitalité. C'est autour d'une table, ou dans un café, ou avoir un thé, ou pendant une promenade, vous passez du temps avec les personnes et vous leur faites bon accueil. Frères et sœurs, montrez à Jésus que vous l'aimez en aimant ce qu'il aime. Aimez-vous les uns les autres. C'est la marque des vrais chrétiens. À ceci, tous connaîtront que vous êtes ses disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen.